France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Ça sent la panique, celle de certains candidats, celle aussi de certains élus et responsables politiques qui ont bien compris que quelque chose ne tourne pas rond. Nous sommes à une semaine et deux jours de la date limite du 4 mars. Ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon n'ont donc leurs 500 signatures. En bas du tableau, si j'ose dire, Christiane Taubira est en panne elle aussi et elle n'est pas la seule. La panique des candidats, vous me direz, c'est un petit numéro de claquette très au point que l'on retrouve tous les 5 ans, notamment du côté de l'extrême droite. Mais cette année, c'est vrai qu'à droite de la droite, ils sont deux. Et ça change tout. Marine Le Pen a même annoncé qu'elle suspendait sa campagne pour aller chercher des parrainages. À gauche, en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait bénéficié des parrainages communistes. Ils sont très bien organisés, les communistes. En 2017, il n'y avait pas de primaire populaire. Et demander au peuple de voter par Internet, c'est une chose. Mais qui fait le tour ensuite des mairies pour décrocher les parrainages, c'est autre chose. Donc la politique a changé, mais le système reste le même. Alors est-ce qu'il faut le revoir? Pas cette fois, c'est trop tard, mais pour après, ou est-ce que c'est vraiment trop tard d'ailleurs pour modifier par exemple l'anonymat du parrainage? La question vaut parce que les institutions paniquent aussi. David Blisnard, qui préside l'Association des maires de France, a parrainé Jean-Luc Mélenchon alors qu'il vote pour Valérie Pécresse. Jean Castex lui-même a appelé les maires à faire leur devoir, donner leur voix, sauf que la réunion prévue demain avec les maires a été annulée cet après-midi faute de participants. Il y a donc quand même quelque chose qui cloche et c'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marilyn, c'est vous la première. Bonsoir Marilyn, bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Voilà, je voulais participer à ce téléphone sonne pour d'une part souligner le fait que la campagne présidentielle fait un flop ici en France. Avec effectivement notre président qui ne s'est toujours pas prononcé sur sa candidature.
Alors, il y a une absence. Tarder, mais bon.
Oui. Mais bon, il y a une absence de débat. On se rapproche quand même du mois d'avril avec. Je trouve effectivement ça manque d'intérêt pour les concitoyens et je pense que les maires ne s'y retrouvent pas non plus. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a peut-être un ras-le-bol aussi des maires concernant effectivement. Je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance des maires dans leurs fonctions. Et puis, le fait qu'il y ait de plus en plus de missions de l'État qui sont déléguées au niveau municipal, avec une lourdeur financière qui pèse de plus en plus sur les communes. Et je pense qu'il y a peut-être un ras-le-bol.
Donc, du coup, on posera la question à notamment l'un de nos invités, mais vous imaginez, Marilyn, que du coup, quoi, on se venge de cette lourdeur en ne faisant pas de parrainage, en fait.
Alors, peut-être pas une vengeance, mais en tout du moins, on va dire un désintérêt. Mmh. Peut-être que la foi n'y est plus, quoi.
Et merci en tout cas pour cette remarque, Marilyn, pardon, et merci pour cette entrée en matière. On va pouvoir poser la question tout de suite à nos invités, notamment peut-être à Philippe Laurent. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le maire de Sceaux. Vous êtes deuxième vice-président de l'Association des maires de France. Autour de la table ce soir, il y a aussi Jean-Philippe Derosier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille et Simon Lebaron aussi. Bonsoir Simon, journaliste au service politique de France Inter. Je vais vous poser la question directement, Philippe Laurent. Est-ce que parmi vous et vos collègues, il y a aussi une espèce de fatigue, un ras-le-bol qui se traduit aussi dans votre refus collectif, on va dire, parce qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres. C'est vrai qu'en 2017, en tout cas, 34% seulement de ceux qui avaient la possibilité d'utiliser leur droit de parrainer l'ont utilisé, ça ne fait pas beaucoup.
Oui, écoutez, indéniablement, il y a en effet cette espèce de lassitude que nous avons retrouvée dans de multiples occasions ces dernières années. Lassitude des maires qui sont là sollicités comme jamais, alors qu'on parle très peu souvent d'eux et qu'on les sollicite pas dans d'autres circonstances. Également des maires qui ont le sentiment d'une forme d'impuissance par rapport aux services qu'ils doivent rendre et qu'ils devraient pouvoir rendre à leurs habitants.
Mais du coup, Philippe Laurent, pardon, on se venge, j'y mets vraiment des guillemets, parce que je vois bien que c'est pas une histoire de vengeance, mais du coup, on se retourne contre les parrainages pour cette raison-là?
Oui, alors c'est-à-dire que nous avons été nombreux dans les années précédentes, dans les cas précédents, à dire que ce système des parrainages, surtout avec la publication des noms, n'était plus adapté. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous, le président de l'AMF d'ailleurs l'a fait également, on suggérait quand même qu'une réflexion ait lieu pour modifier le système, avoir par exemple des parrainages citoyens qui sont beaucoup plus appropriés à une élection qui a lieu au suffrage universel. Voilà, donc le système, nous avions souhaité que ce soit revu. Ça n'a pas été fait, personne ne s'en est occupé. Là aussi, personne n'a vraiment entendu. Et ce qui arrive aujourd'hui n'est que le fruit, en fait, d'une espèce de négligence générale par rapport à un système qui n'est plus adapté.
D'ailleurs, Philippe Laurent, vous avez parrainé quelqu'un, vous, ou pas ?
Non.
D'accord. Et vous allez le faire ?
Je ne pense pas.
D'accord. Donc, il vous reste 10 jours pour réfléchir, mais pour l'instant, en tout cas, l'exemple, entre guillemets, qu'a voulu donner David Lisnard, le patron des maires de France, vous a pas servi de... Il n'y a pas eu d'électrochoc chez vous, en tout cas ?
Non, pas du tout. Non, c'est une affaire de communication habile, mais c'est pas plus que ça. Je veux dire, nous sommes dans une situation où les maires, en réalité, sont coincés. David Lisnard dit le parrainage ne vaut pas soutien. Il a raison juridiquement, mais pour la quasi-totalité des citoyens, c'est pas le cas. Et donc, les maires ne veulent pas être dans une position clivante par rapport à leur population, alors même qu'ils ont à rassembler pour les projets, pour la vie de la ville, une situation apaisée dans leur commune. Donc, ce sont des rassembleurs, les maires. Et ils ne veulent plus être dans cette situation de cliver.
Jean-Philippe de Rosier, qu'est-ce que dit le constitutionnaliste là-dessus ? D'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'il devrait y avoir une sorte de devoir, en fait, pas seulement des maires, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des élus départementaux, etc., qui sont ouverts au parrainage. Est-ce qu'on devrait considérer qu'il y a une forme de devoir plutôt que cet énorme absentéisme, au fond, à chaque élection ?
Alors, je vais vous répondre. Ouais. Je veux d'abord, en un mot, réagir quand même à ce qui a été dit, qui me surprend un petit peu, que de la part de responsables politiques, parce que les maires et les élus qui font partie de ce collège de 47 000 personnes sont des responsables politiques, ce sont des élus qui répondent de leurs actes, refusent d'être des responsables politiques, c'est-à-dire veulent se cacher derrière les citoyens pour se défaire d'un droit qui leur est conféré par la loi, en disant c'est pas à nous de le faire, ce serait aux citoyens. Ça me surprend un petit peu. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors actuellement, effectivement, ce parrainage, qui est un mot impropre en réalité, c'est une déviance de langage que nous-mêmes juristes utilisons, que les journalistes utilisent, que les politiques utilisent.
Parce qu'effectivement, quand on parraine, on adhère.
Ce n'est pas parrainer. Ouais. Quand on parraine, généralement, on adhère. Exactement. Alors le parrain, ça fait référence à la mafia, ça fait référence à la famille. Mais il y a un lien soit de soutien, soit de mainmise. Or, la loi est très claire, elle parle de soutien et de présentation. On présente un candidat. Et elle ne parle pas de soutien, justement, elle parle de présentation. Et donc, il n'y a pas de soutien politique dans une présentation. Et elle en fait un droit. Est-ce qu'il faut le transformer en devoir ? Moi, je pense que débattre ainsi à chaud, au moment où tout cela se met en place, ce n'est pas le bon instant. Il faudra peut-être, au lendemain de la présidentielle, tirer les leçons de ce qui s'est passé, voir les instrumentalisations auxquelles certains et certaines ont pu peut-être se livrer, et à partir de là, réfléchir, le transformer en devoir. Si on le transforme en devoir, alors il faut impérativement élever le seuil, parce que 47 000 présentateurs, signataires potentiels, si on divise par 500, ça fait un nombre trop important de candidats. Et donc, il va falloir élever le seuil. Et à ce moment-là, vous allez voir que les candidats refoulés vont dire « Ouh là là, mais le seuil est trop élevé ».
Vous l'élevez à combien, vous, comme ça, a priori ?
Tout dépend si on le transforme en obligation ou non. Mais moi, je suis partisan, en l'état actuel, déjà, d'élever le seuil. Mais si on le transforme en obligation de signer pour quelqu'un, alors il faut l'élever au moins à 2000 signatures. Parce que sinon...
2000, waouh.
Ce n'est que 4 fois plus, regardez, ce n'est que 4 fois plus que le seuil actuel, alors qu'on a à peu près un quart des parrains, pardon, je reprends ce terme, des parrains qui signent. Donc, on est dans la fourchette.
Simon, une seconde, puis on va revenir aussi au côté citoyen, en fait, vote citoyen ou pas autour de ça. Simon Le Baron.
L'obligation, le caractère obligatoire du parrainage ou de la présentation, pour revenir effectivement au terme originel, ça fait partie des propositions que fait Gérard Larcher, d'ailleurs aujourd'hui président du Sénat, qui dit soit on revient à l'anonymat complet, comme avant la réforme de 2016, c'était sous François Hollande, où on publie publie comme ça de manière régulière, avec des données qui sont accessibles à tout le monde et les noms des maires et des élus qui sont accessibles à tout le monde très facilement sur le site internet du Conseil constitutionnel. Soit on revient au système d'avant, c'est-à-dire anonymat partiel ou complet, soit on crée un mix entre, par exemple, 250 parrainages d'élus et 150 000 parrainages citoyens, soit on fait le parrainage obligatoire. Juste une petite remarque avant d'écouter les auditeurs. Fabienne, vous disiez, Jean-Philippe de Rosier, il faudra prendre à bras-le-corps cette question au lendemain de l'élection présidentielle. Le problème, c'est qu'à chaque élection, on le dit, l'élection passe, on n'y pense plus, et cinq ans après, ça revient. C'est comme pour toutes les réformes constitutionnelles, c'est
aussi,
très difficile
à faire. Peut-être aussi parce qu'à chaque fois, les gros candidats, j'y mets des guillemets, parce que les petits candidats qui nous écoutent vont sauter au plafond, ils auront raison, mais à chaque fois, à la fin, on les a, les 500 signatures. Donc on a un peu le sentiment qu'on crie au loup aussi tous les 5 ans.
Ça montre que le système marche. Quel est l'objectif de ce système ? C'est de créer un filtrage pour éviter qu'il y ait un défilé de candidats à l'élection présidentielle, parce qu'on ne peut pas avoir un morcellement du paysage politique. On ne parle pas de n'importe quoi, on ne parle pas d'un défilé de saltimbanques, on parle de l'élection présidentielle destinée à désigner le chef politique pour les 5 prochaines années.
Mais est-ce qu'on peut considérer quand même, dans cette élection aujourd'hui, que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour sont un défilé de candidats. Est-ce qu'on les met dans ce même sac-là ?
Je vais vous répondre au risque de choquer peut-être certains des auditeurs, dont les trois que vous venez de mentionner, s'ils nous écoutent. Oui, on est dans un défilé de candidats. Le système est là pour créer ce filtrage et pour garantir que les candidats qui obtiennent, qui passent ce filtre, ont une crédibilité politique et une implantation territoriale.
En effet,
s'ils ne parviennent pas à obtenir ces parrainages, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Ou alors qu'ils n'ont pas créé les conditions d'un rassemblement sur leur candidature.
C'est vrai que les candidats dont on parle, les trois principaux candidats qui ont du mal à avoir ces parrainages, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ont une assise territoriale qui est assez faible. Marine Le Pen, le Rassemblement National a obtenu des scores décevants lors des dernières élections locales, ce qui explique aussi cela. Mais c'est une certitude que s'il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle, ce serait une crise démocratique majeure, et ça on l'a bien identifié d'ailleurs au sein de l'exécutif, d'où cette tentative de réaction tardive, la réunion proposée hier à Matignon par Jean Castex, qui est boycottée par les principales associations d'élus.
Et Philippe Laurent, est-ce que, double question avant qu'on retourne au standard, effectivement, est-ce que avec cette réunion, vous avez eu le sentiment qu'on vous intimait l'ordre, en quelque sorte, de non seulement d'y participer, mais aussi de parrainer, donc de voter. Donc vous vous dites, non mais vous êtes gentil, mais non, on va pas le faire. Et deuxièmement, quand même, et là le débat est vraiment intéressant, est-ce qu'il faut désormais s'interroger sur comment on construit une candidature ? Parce que c'est ça que ça veut dire. Il y a eu une époque où quand on se présentait pour un parti établi, il y avait des militants, il y avait pas seulement des élus, mais des militants partout, et tout ça faisait monter la pyramide qui emmenait jusqu'au maire et donnait les parrainages. Là, on est dans une forme complètement différente. Donc, est-ce que l'une des leçons, c'est pas celle-là aussi, s'interroger sur la construction d'une candidature ?
Et alors d'abord, sur votre première question, les associations d'élus...
La réunion avec Jean Castex, ouais.
Oui, les associations d'élus, en effet, n'ont pas souhaité s'y rendre parce que ça n'est pas l'exécutif. D'ailleurs, Richard Ferrand lui-même l'a dit, a dit ce que je vais dire. Ce n'est pas l'exécutif d'intimer des instructions au maire, puisque encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas un devoir, c'est un droit, le droit de présenter. Mais si on veut pas exercer ce droit, on l'exerce pas. Enfin, c'est quand même la moindre des choses de reconnaître ça. Ah, mais maintenant, par rapport à votre question, vous avez absolument raison. Je pense que nous avons un système, un monde, un milieu politique qui est totalement déstructuré. Les partis politiques ont été tellement décrédibilisés que aujourd'hui, ça fonctionne plus. En réalité, les candidats à l'élection présidentielle devrait en fait procéder non pas forcément du système pur des partis, mais devrait s'appuyer sur des partis politiques qui ont eux-mêmes des élus locaux et qui peuvent à ce moment-là présenter leur candidature. Oui. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour Anne Hidalgo qui fait pas quand même un score très important dans les sondages, mais elle a réussi à avoir ses 500 signatures sans problème parce que elle s'appuie sur un parti
politique. Parce qu'il y a la structure du parti
qui est encore vivant. Voilà, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays ? Nous sommes très nombreux, les maires, à penser que le système politique français ne fonctionne plus, il ne fonctionne plus bien. Et que les partis politiques, d'ailleurs, ils sont reconnus dans la Constitution, ils concourent à l'expression du suffrage, et ils sont indispensables au bon fonctionnement d'un système démocratique.
Et on vous rétorquera probablement auprès des gens qui nous écoutent que ça, c'est de la vieille politique. Effectivement, c'est se baser toujours sur les partis traditionnels. Or, on a bien senti que les électeurs avaient une terrible envie de sortir des partis traditionnels. Donc on a l'impression qu'on se mord un peu la queue. En fait.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, dans d'autres pays, ça continue à exister comme ça. Ça fonctionne et ça donne de très bons résultats. Regardez, par exemple, en Allemagne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Donc, je veux bien que la France soit toujours à part, que... Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas.
L'Allemagne est un pays fédéral, le président allemand, on est vraiment dans un système qui est très différent.
Oui, mais à l'Assemblée nationale, on a bien une coalition qui se fait après l'élection législative sur la base de partis politiques.
Oui.
Ça fonctionne.
Voilà, ça dépend si l'élection législative est proportionnelle ou n'est pas proportionnelle. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui...
Oui,
beaucoup de choses qui rentrent quand même en ligne de compte.
Je pense que le système est malade globalement et cette affaire des parrainages montre en fait un symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde.
Allez, retour au standard avec Irène justement, puisqu'on parlait de petits partis. Bonsoir Irène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi j'ai fait ce qu'on appelle du phoning, c'est-à-dire j'ai contacté presque 150 élus à parti qui est donc le parti animaliste. À ce jour, notre présidente a de l'ordre de 80 parrainages officiels alors qu'elle en avait presque 350 promesses en début de campagne. Mmh. Alors même si on nous dit que parrainer, ce n'est pas voter pour tel parti, c'est juste soutenir des idées, faire valoir le pluralisme des idées et des valeurs. Le parti animaliste est un petit parti. On se demande vraiment en quoi ce parti peut gêner. Moi, les retours que j'ai eus, c'était on ne veut pas d'ennuis avec nos administrés. Des fois, les discussions au téléphone, par ailleurs, étaient très, très intéressantes. On vous soutient, madame, on soutient vos idées. Mais non, je ne peux pas. Je peux pas. Voilà. Je trouve que le système est un peu verrouillé, vicié, parce que ce sera toujours les gros partis qui ont les gros moyens financiers, logistiques, qui, voilà, ça tourne en boucle.
Merci beaucoup, Irène, pour cette remarque. Et là-dessus, Jean-Philippe de Rosier, je comprends très bien ce que vous dites sur le fait qu'une candidature se bâtit, et notamment, effectivement, avec ce que le parti peut apporter. Mais du coup, ça veut dire, là, pour le coup, Irène a raison, que si on n'est pas un gros parti, on a zéro chance. Et donc, à une élection présidentielle, il ne peut y avoir qu'un gros parti.
Je ne suis pas sûr que Nathalie Arthaud ou Jean Lassalle soient issus d'un gros parti. Mmh. Et pourtant, l'un et l'autre ont leur parrainage. Ils ont leurs 500 signatures. Mmh. Ils ont franchi le seuil. Pourquoi ? Parce que depuis des années, notamment avec Lutte Ouvrière...
Une vraie organisation qui
organisée.
Part d'en bas. On est d'accord
voilà.
avec ça, ouais.
Mais donc,
et depuis très longtemps.
C'est une organisation, le parti politique. Mmh. Parce que dans les propos d'Irène, on avait l'impression qu'il y avait un lien entre les moyens, notamment financiers, et la possibilité d'obtenir des candidats avec un raccourci qui pourrait être fait justement au niveau de l'argent et donc le paiement des signatures. Ça, je suis convaincu que ça ne se fait pas. Je suis convaincu que ça ne se fait pas. Et effectivement, c'est l'implantation au sein de la République, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue territorial, qui permet de construire une candidature à l'élection présidentielle.
Au fond, c'est un impensé des candidats, parfois, on se dit, parce que je pense à la primaire populaire, par exemple, est-ce que ça a généré, on se dit que, oui, il y a 240 000 personnes qui ont voté, quelqu'un en est sorti, mais est-ce qu'on a réfléchi derrière à la manière d'amener les parrainages? Je veux pas vous piéger, Simon Le Baron, mais on a l'impression que ça a été l'impensé, en fait.
La situation qu'on vit actuellement, et j'entends très bien le discours du constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, mais... Elle est révélatrice de cette situation, elle est révélatrice de l'explosion du paysage politique à laquelle on assiste depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que les gros partis aux élections locales, Parti Socialiste, les Républicains, les gros partis, ou en tout cas les partis traditionnels, historiques, restent très très bien implantés, avec un nombre d'élus beaucoup plus important que les autres, mais finalement ne pèsent plus ou pèse peu aux élections nationales. On voit que Valérie Pécresse a un score qui est très décevant par rapport à ses prédécesseurs aux élections présidentielles. Anne Hidalgo, on n'en parle pas, et pourtant elles n'ont aucun problème à recueillir ses signatures. Tandis que Jean-Luc Mélenchon, qui était quatrième en 2017, il n'y arrive pas. Marine Le Pen, qui était deuxième, a du mal également. Et donc, est-ce que ce système est toujours valable dans cette situation? On peut se poser la question.
Philippe Laurent, tiens, pour répondre à ça, vous, depuis votre siège de maire, si je puis dire, si on décide de tout remettre dans le shaker, comment on sort de ce shaker, si je puis dire? Quel est votre... On a entendu qu'il y avait eu un certain nombre de suggestions, quelle serait la vôtre?
En ce qui me concerne, et en ce qui concerne un certain nombre de maires, nous pensons qu'il faut passer à un parrainage citoyen, avec, je ne sais pas, 100 000 ou 200 000 signatures. Et je veux dire simplement que nous pouvons le faire techniquement, puisqu'il y a maintenant un répertoire électoral unique qui est géré au niveau national et qui permettrait très facilement d'organiser la chose. Voilà, et je pense qu'à partir du moment où il s'agit d'une élection au suffrage universel des citoyens, de l'ensemble des citoyens, eh bien c'est aux citoyens de choisir, en tout cas de présélectionner les candidats qu'ils veulent voir concourir.
Ça me paraît assez logique. Il y a une autre suggestion, c'est celle de Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous vos invités, bonsoir à France Inter. En préambule, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Adèle Vendrette sur France Inter.
Bah écoutez,
personnellement.
Nous aussi, on lui souhaite bien sûr la bienvenue, absolument.
Bienvenue à notre nouvelle directrice.
Mais totalement. Le rouge vous va si bien. Allez-y, pour votre question, Pascal.
Pour en revenir au débat... Oui, il y a un problème démocratique au niveau des signatures pour certains candidats, je dis bien certains, et ça pose un problème de...
Et alors vous aviez une solution, Pascal ?
Oui, j'avais une idée qui pourrait peut-être débloquer la situation.
Allez-y.
C'est de permettre au maire ou à tous les élus qui peuvent porter un parrainage, au lieu de un parrainage, d'en faire deux. Mmh. Et qui les ferait peut-être à l'opposé de l'échiquier politique, mmh. et de favoriser peut-être des petits partis dont parlait l'auditrice précédente, ou le parti animaliste, dont j'ai pas retenu le prénom, mais voilà. Et ce qui les autrait, on pourrait plus les soupçonner de soutenir. Voilà, ce sera au niveau de la démocratie, je trouverais que c'est mieux.
Parce
que,
merci.
Bon, je me méfie du vote
citoyen. Populaire. Voilà, on a compris. Pascal, pardonnez-moi, mais merci beaucoup. S'il y a vraiment du monde, et j'aimerais entendre par exemple Philippe Laurent là-dessus. Si on vous disait, vous pouvez voter deux fois, monsieur le maire, qu'est-ce que vous répondriez ?
Oui, d'abord, c'est pas un vote, hein, c'est une présentation.
Oui, pardon. Vous pouvez. Oui, vous avez bien raison.
Vous voyez,
mais le lapsus est intéressant, en fait, sur la manière dont c'est perçu. Alors, pardon. Pouf. Vous pouvez parrainer deux fois.
C'est une idée qui a été aussi avancée. Ouais. En effet, il y en a plein. Mais comme tout ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, la question a déjà été posée après l'élection de 2017 et même après celle de 2012. On assistait quand même ces dernières élections à une espèce de vaudeville dans lesquelles on ne parlait plus que de ces questions de parrainage. Je ne sais pas si vous vous souvenez la mise en scène par Jean-Marie Le Pen, je crois que c'était en 95 ou enfin bon, quelque chose comme ça. C'était absolument inénarrable. Et là, ça va recommencer. Vous allez voir que les candidats auront leur parrainage. De toute façon, ils les auront. Ils les ont même peut-être. Mais en fait, tout ça est quand même l'objet peut-être d'une manipulation, quand même, d'une grande manipulation dans laquelle nous tombons tous la tête la première.
Alors la question est de savoir effectivement si c'est cousu de fil blanc ou pas, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question, Jean-Philippe Derosier, qu'est-ce qui se passe si le 4 mars, un Éric Zemmour, ou même si c'est un seul, et quel qu'il soit parmi les trois qui sont pour l'instant plutôt haut dans les pourcentages, on va dire, qu'est-ce qui se passe si l'un de ceux-là ne peut pas se présenter ? Enfin, je veux dire, ça risque d'être un peu quand même une sacrée élection, non ?
Alors, je vais être, là encore, sans doute, choqué.
Je vous ai entendu penser.
Et surtout pour Éric Zemmour, ouais. Qui est l'exemple même du défilé de saltimbanque. Mm-hmm. Éric Zemmour n'a aucune implantation politique, n'a aucune implantation territoriale, mm-hmm. et n'a aucune crédibilité politique. Mm-hmm. Emmanuel Macron était un petit peu dans la même situation il y a 5 ans. Mais il a eu des relais politiques qui ont crédibilisé sa candidature.
C'était ceux du Modem à l'époque.
Notamment
les signatures du Modem.
Le Modem. Mm-hmm. et quelques anciens élus socialistes qui ont décidé de le rejoindre, crédibilisant ainsi sa candidature et lui permettant de passer le seuil. Aujourd'hui, si le 4 mars, les 2, 3, 4 candidats dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient qualifiés ne le sont pas, c'est que, encore une fois, le système aura fait ses preuves. Mmh. Il aura montré qu'il faut cette implantation et qu'il faut créer les conditions de rassemblement autour d'une candidature. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont vraisemblablement plus de mal à obtenir des parrainages cette fois-ci qu'il y a 5 ans, parce que pour le premier, il y a la dissidence du Parti communiste, et pour la seconde, elle est confrontée à Éric Zemmour. Eh bien, ça montre bien qu'ils ne sont pas en mesure de rassembler autour de leur candidature, comment peuvent-ils demain espérer rassembler la France autour de leur présidence, si déjà au niveau de la seule candidature, ils sont clivants ?
Hugo, bonsoir. Pardon, Simon d'abord, non, juste une seconde.
Simplement, encore une fois, est-ce que avoir une implantation locale, avoir une histoire politique qui s'est construite sur des années et des années, ça veut dire refléter l'état de la société ou d'une partie de la société à un instant T ? On voit que non. Encore une fois, l'exemple d'Anne Hidalgo est frappant. Elle a ses parrainages sans aucun problème. Elle pèse très peu dans les sondages, pour tout un tas de raisons.
Ça ne peut pas être les sondages qui font les candidats.
Alors justement,
Éric Zemmour aujourd'hui représente, qu'on le veuille ou non, une partie de la société.
Attendez, parce que vous êtes en train tous les deux de manger
certains Français.
Vous êtes en train tous les deux de manger la question d'Hugo, justement. Eh ben, donc laissons-lui la poser. Hugo. Allez-y, Hugo. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, moi je me demandais. Je ne sais pas si c'est le bon système, hein, la façon de parrainage, mais je me disais que quel que soit le système, à partir du moment où on est bombardé de sondages toutes les semaines, voire tous les jours, et que c'est les sondages qui font les gros candidats ou les petits candidats, parce que finalement c'est comme ça qu'on les qualifie, parce qu'il y a des sondages, de toute façon on criera toujours au scandale démocratique dès qu'il y en a un qui dépasserait les 5%, qui possiblement ne pourra pas se présenter du fait du système quel qu'il soit. Et donc moi ça me pose un problème quand même que ce soit les sondages, qui ne sont que des sondages, avec tous les défauts qu'ils ont, et qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont une photographie à un instant T, avec des gens qui répondent à des questions auxquelles ils ont peut-être ne sont même jamais posé la question. Donc ça ne sont que des sondages, et donc c'est ça qui fait la légitimité démocratique. Mmh. Ben, ça me pose un très gros problème, et ma foi, qu'un négationniste, même s'il fait 40% dans les sondages, ne puisse pas se présenter, moi je ne vois pas tellement où est le problème. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment ça que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est les sondages qui font la légitimité démocratique ? Parce que quel que soit le système qu'on invente, eh bien, tant qu'il y aura ces sondages qui mettront haut des candidats, eh bien, ils crieront au scandale démocratique si jamais ils ne peuvent pas se présenter.
Et on vous a entendu, Hugo, merci beaucoup. Le truc, c'est que ça marche aussi à l'envers, Jean-Philippe de Rosier, parce que il y a les candidats qui sont à 2,5% et qui ont leur signature extrêmement facilement, vous le disiez, parce que il y a tout un maillage local en dessous. Enfin, pour ne pas parler de cette élection-là et ne vexer personne, souvenez-vous que Benoît Hamon, 2039 signatures, c'était le deuxième en nombre de signatures derrière François Fillon, dans mes souvenirs. Pas dans mes souvenirs d'ailleurs, dans le papier que je vois là. Et résultat, 6,5%.
Oui.
Donc ça marche dans les deux sens, en fait. Cette incongruité liée au sondage fonctionne dans les deux sens.
Ben non, je vois pas en quoi est-ce qu'elle fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas un sondage qui détermine qui est candidat. C'est, encore une fois, son implantation territoriale. Que ensuite le candidat et son projet ne parviennent pas à convaincre les Français. Ça, c'est le jeu démocratique. Mmh. Et c'est pour ça que je ne suis pas davantage partisan des parrainages citoyens, parce que je pense que les citoyens, leur rôle est au niveau de l'élection, pas au niveau de la détermination de qui doit concourir à l'élection.
Mais vous disiez tout à l'heure, si un candidat n'arrive pas même à convaincre les 47 ou 43 000 élus qui sont susceptibles d'eux, c'est que de toute façon, la candidature ne fonctionne pas et qu'elle est mal fichue. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un candidat qui arrive à en convaincre un certain nombre et donc être président, et à être parrainé, mais se retrouve après avec un score qui, au final, est un mauvais score.
Ça, c'est parce que, aussi, au niveau de la conviction des parrains dans le collège, c'est au niveau de l'image politique qui est renvoyée, de la crédibilité politique d'une candidature. Au niveau de l'élection, c'est la conviction du projet que le candidat porte. Et c'est aussi une déconnexion qui doit être à nouveau faite entre les présentateurs, j'aime pas les appeler comme ça, mais c'est pour bien coller au terme de la loi, les signataires potentiels, qui ne vaut pas soutien politique et qui peuvent juger, comme David Lisnard, le maire de Cannes, qui considère que Jean-Luc Mélenchon a la crédibilité politique suffisante pour concourir à l'élection présidentielle. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas nécessairement, indépendamment de leur force dans les sondages. Et je répète, ce n'est pas un sondage qui doit déterminer qui doit concourir à l'élection présidentielle. Sinon, on teste Zinedine Zidane et je suis sûr qu'il est à plus de 10%.
Il aura ses 500 signatures.
Encore une fois, je ne suis pas un défenseur acharné des sondages, mais à un certain niveau, bon, ça veut dire quelque chose. On ne va pas tourner en rond. Voilà, j'ai déjà dit ce que je pensais sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas, Jean-Philippe de Rosier, hein, puisqu'on parle de la Constitution et des règles telles qu'elles sont faites, un problème, une dichotomie entre cette présélection qui est faite faite par des élus qui datent de l'époque où le président de la République était élu ensuite par un collège d'élus, donc c'est-à-dire que la présélection et la sélection étaient faites par les mêmes personnes, des élus. Et on a gardé cette présélection faite d'abord par des élus quand on a passé l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est-à-dire par les Français directement. Donc finalement, on a deux systèmes différents pour la présélection et la sélection désormais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement changer les règles à ce moment-là, en 62, quand la révision constitutionnelle a été faite?
Non, moi je ne le pense pas, et ce qui me paraissait contestable, même si je ne pouvais pas le contester à l'époque, l'instituteur qui ne me voit pas, je suis trop jeune pour avoir participé à l'élaboration de la Constitution de 58, je pense que c'est le système antérieur qui dysfonctionnait. Maintenant, il s'inspirait de ce qui se passait auparavant. Le président de la République, sur le papier de la Constitution de 58, était élu au suffrage universel indirect, collège élargi par rapport à celui de la République précédente, qui était la quatrième, qui était élu par le Parlement. Sur le papier, il devait rester un président arbitre pas forcément celui qui allait diriger politiquement le pays. Mmh. Et c'est là la spécificité de la France par rapport aux autres pays qui nous entourent, y compris ceux qui élisent leur président au suffrage universel direct, comme l'Autriche, le Portugal, la Pologne et d'autres. Nous élisons non seulement le chef de l'État, celui qui va représenter l'État, mais également notre chef politique pour les 5 prochaines années. Et c'est pour ça que je reste convaincu que ce chef politique doit avoir cette implantation politique et territoriale. Et une solution parmi d'autres, mais dont on pourra débattre dans un autre téléphone sonne après l'élection présidentielle et législative, c'est de connecter la candidature à l'appartenance à un parti politique. Et de faire que, pour être candidat, il faille être membre d'un parti politique. Parce que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la vie démocratique ne fonctionne pas sans les partis politiques. Ça n'existe pas. Tous ceux qui clament la disparition, la substitution, ne proposent aucun produit de substitution. Même Emmanuel Macron, qui voulait un nouveau monde, a fait exactement comme tous les autres présidents avant lui, c'est-à-dire créer un parti pour le conduire dans un endroit déterminé, au bout d'un temps indéterminé. Lui, ça a duré un an. Jacques Chirac, ça a duré 20 ans. À l'heure de la 5G et de la fibre optique, ça va beaucoup plus vite.
Philippe Laurent, le maire de Sceaux, deuxième vice-président de l'Association des maires de France, j'entendais que vous vouliez réagir.
Oui, écoutez, moi je suis très heureux de ce que je viens d'entendre, parce que c'est exactement ce que je disais au début, à savoir que cette affaire des parrainages, cette crise entre guillemets des parrainages, en réalité est révélatrice d'un mal beaucoup plus profond, qui est l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons dans notre système politique, d'une manière générale, depuis l'élection du président au suffrage universel depuis 1962. Je rappelle que quand De Gaulle a fait voter ça par référendum, il avait lui-même dit qu'il fallait pas de filtre, que c'est tous les Français avaient la possibilité d'être candidats. Et il s'était résolu à un filtre avec 100 parrains seulement, 100 maires qui pouvaient signer. Alors qu'auparavant, le président de la République, dans la Constitution, la vraie Constitution de la Ve République, le président de la République était élu par un collège de 80 000 personnes, dont les maires d'ailleurs. Et donc on est passé à un autre système politique, totalement différent, et avec en plus le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral entre les présidentielles et législatives. Alors là, on est allé encore plus loin dans le système de présidentialisation, mais sans en tirer toutes les conséquences. Et moi, je veux simplement rappeler que dans les pays où les présidents sont élus au suffrage universel, il y a d'autres systèmes. Ce sont les partis qui décident en fait des candidats, de fait. Comme par exemple aux États-Unis, où il y a pour le coup, les candidats appartiennent en effet à un parti politique.
Alors je ne sais pas si Donald Trump, par exemple, appartenait réellement au parti républicain ou s'il a dû s'y inscrire au dernier moment, parce qu'on peut aussi faire ça, s'y inscrire à l'extrême dernier moment, exactement comme on peut voter en s'inscrivant à l'extrême dernier moment.
Il s'est inscrit parce que juridiquement il y avait la primaire et qu'il fallait qu'il soit candidat des Républicains. Sinon, il n'aurait pas été candidat. Voilà,
et on peut le faire à n'importe quel moment. Je voudrais qu'on retourne au standard. Retrouver Armel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, d'abord je voulais dire que je partage tout à fait le point de vue de Hugo. Voilà,
d'accord.
Ça c'est dit.
Sur les sondages, donc, on a entendu.
Oui, voilà. Et ensuite, c'est plutôt une suggestion pour un peu libérer les maires de cette responsabilité. Est-ce que le maire pourrait faire voter les membres du conseil municipal à bulletin secret afin qu'il ne soit pas le seul responsable du choix. Ce serait une décision collégiale et ce serait peut-être une solution libératrice pour le maire. Voilà, c'est une suggestion. C'est peut-être une fausse bonne idée, mais je voulais quand même la proposer.
Philippe Laurent, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, merci beaucoup. Armel, est-ce que ça vous libérerait un peu les épaules?
C'est une idée, en effet. Ça a déjà été aussi émis comme suggestion. Encore une fois, dans un débat qui n'a pas eu lieu et qui devra, de toute façon, quoi qu'il en soit, avoir lieu après cette élection présidentielle-là, parce que l'espèce de mélodrame auquel nous assistons aujourd'hui est absolument indigne. On ne parle plus du fond, on ne parle plus que de cela, que de cette question de parrainage. Donc il y a un vrai sujet de refonte de nos institutions, au moins sur ce sujet.
Simon.
Certains maires l'ont fait en ce moment et le font, demander à leur conseil municipal de voter. D'autres demandent à leurs administrés de se prononcer dans des consultations. Il y en a qui le font sur Twitter, sur les réseaux sociaux et d'autres tirent au sort carrément. Voilà. Donc on voit que chacun se débrouille en fait.
Est-ce que c'est pas le degré zéro de la démocratie de tirer au sort, non, Jean-Philippe Derosier?
Alors là c'est encore un troisième débat. Non, mais enfin, voyez, faire.
Quand on en arrive c'est que vraiment il y a un souci.
La démocratie du hasard n'a jamais été quelque chose qui me semble valablement qu'on fonctionne. Et donc le tirage au sort n'a, de mon point de vue, pas sa place en démocratie. Après, c'est un acte du maire, ou en tout cas du maire et de tous les autres investis de ce droit. Mais c'est un acte personnel. Chacun est libre de l'organiser comme il l'entend. S'il veut mettre trois noms dans un chapeau et décider comme ça pour lequel il va signer, libre à lui. S'il veut consulter son conseil municipal, libre à lui. Il peut faire un débat et suivi d'un vote. Mais il ne peut pas considérer que son conseil municipal a dit que, donc il était nulle part.
Question rapide de monsieur le constitutionnaliste. Si on va chercher la méthode Bayrou, c'est-à-dire cette espèce de réserve de voix qu'ensuite on distribue, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est organisable? Est-ce que c'est légal, légitime? Est-ce que c'est possible ou pas?
Alors, c'est relativement possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de collecter les parrainages et ensuite de les renvoyer, puisque chaque maire est tenu de l'envoyer lui-même avec sa signature dans une enveloppe dédiée et normalisée. Mais François Bayrou, qui aime bien saisir de sujets médiatiques et polémiques, a saisi là ce sujet pour effectivement offrir une possibilité à certains candidats de renflouer les caisses de signature et c'est tout à fait, ça ne contrevient pas à la loi, ça contrevient peut-être à son esprit, mais même là, après tout, pourquoi pas se faire le relais de cette crédibilité requise par des élus qui sont en droit de parrainer.
Et est-ce qu'il est trop tard pour modifier la loi organique pour le coup de 2016, c'est-à-dire de revenir à l'anonymat? Ça c'est trop tard.
Oui, on n'a plus le temps. D'abord, le Parlement suspend ses travaux à la fin de la semaine, il peut être reconvoqué, ça c'est pas vraiment un problème, mais les délais sont trop courts. Et puis, de toute façon, d'un point de vue démocratique, changer les règles au moment où elles sont en train de s'appliquer, c'est un petit peu problématique.
Simon ?
Juste pour terminer, dire qu'il y a, à mon sens, pas de bon système, et d'ailleurs je pense que tout le monde s'accordera à le dire. Les parrainages citoyens, ça posera beaucoup d'autres problèmes, notamment de sécurité. Comment on fait pour s'assurer de la sincérité de 150 000 parrainages? Comment on fait? Est-ce qu'il faut envoyer une lettre? Est-ce qu'on peut le faire en ligne? C'est très très compliqué.
De la même manière,
éviter que Douglas vote.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Éviter d'avoir un chien qui vote.
Effectivement. On est obligé d'expliquer qui est Douglas. C'est un chien qui, d'après nos confrères de Libération, était inscrit sur les listes pour la prime. Le congrès des Républicains dont est sorti vainqueur Valéry Pécresse.
Et qui a déjà un compte Twitter. Philippe Laurent, vous avez le droit à la conclusion, parce que je vous ai entendu, mais soyez rapide, je vous en supplie.
Non, mais très rapidement, c'est le vote parrainage citoyen. On sait le faire maintenant avec le répertoire électoral unique. Il n'y a aucun risque. On ne pouvait pas le faire il y a 5 ans, d'accord, mais aujourd'hui on sait le faire, puisqu'on a totalement changé le mode d'élaboration des listes électorales. Maintenant, c'est centralisé. Donc, on sait le faire. Il n'y a pas d'argument technique contre ce système. Alors après, on peut avoir des arguments politiques, mais pas d'argument technique.
Voilà, et le pari, en tout cas, sera de savoir si, effectivement, au sortir de cette élection, on se dit, bon, allez, ce chantier, on s'y attaque, ou si on fait comme on le fait tous les 5 ans, c'est-à-dire qu'on oublie et qu'on y retourne dans 5 ans. On verra bien, en tout cas, le 4 mars arrivera très vite. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et vos très nombreuses questions.